Aujourd'hui, la presse va mal parce que la démocratie va mal.
Quatrième murmure.
Il nous faut réagir, réagir vite et ensemble.
L'émission qui porte la voix de la presse libre et des médias indépendants.
Moi, ça me fait respirer. En fait, la presse indépendante, elle m'ouvre des poches de respiration.
Un mardi par mois à 20h sur Radio Campus Paris.
Libérons l'info des pouvoirs politiques, des médias de la haine et des milliardaires.
Ça y est, c'est la rentrée, les réveillons sont passés, la neige est tombée, le vent a soufflé, mais les combats menés par la presse indépendante sont loin d'être terminés. Et parce qu'un combat peut être mené dans la joie, la révolte et l'espoir, à travers des enquêtes approfondies et intimes, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau de Quatrième Murmure, le média des révolutions féministes, au pluriel c'est important, La Déferlante. Et notamment on reçoit une de ses cofondatrices et co-rédactrice en chef, Emmanuelle Josse. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour.
Alors Emmanuelle, bien sûr, avec toi, on va découvrir ce qu'est La Déferlante, parce que La Déferlante, ce n'est pas seulement un média, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis on pourra évidemment, comme à chaque épisode, revenir sur un exemple concret d'enquête qui est paru en fin d'année dans La Déferlante. Et pour cela, Cléo. Salut Cléo.
Salut.
Tu reçois une invitée qui va nous parler d'une association liée à l'extrême droite.
Oui, tout à fait.
Et donc cette invitée, c'est Rosane Le Carboulec. Bonjour Rosane.
Bonjour.
Avec nous aussi en studio, Ilona. Salut à toi Ilona.
Bonjour tout le monde.
De quoi tu vas nous parler tout à l'heure?
Je vais vous parler des procédures Bayon.
Et en fin d'émission, surtout restez avec nous, on partira en direction de Nice, où notre camarade Marion a rencontré le média indépendant local Mouais. Tout ce joli programme, bien entendu, c'est sur Radio Campus Paris, et vous écoutez le cinquième épisode de Quatrième Murmure.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
Alors, je ne l'ai pas précisé, mais j'attendais le meilleur moment pour le faire. Cette émission est réalisée par notre bon vieux PA. Salut PA.
Salut tout le monde.
Et tu as aussi donc préparé la revue de presse des médias indés.
Tout à fait.
T'as pas lu les journaux ?
Moi, comme je suis au courant de rien, excusez-moi, mais...
Alors PA, la première actu de la presse indépendante qui t'a marqué ces dernières semaines, c'est l'industrie de l'armement qui voit la vie en vert.
Et oui, tout à fait. Et si je vous disais que la vente d'armes est bénéfique pour l'environnement et contribue aussi à un monde plus durable? Vous n'êtes pas convaincu? Pourtant, c'est la position officielle de la Commission européenne depuis mars 2024, après un intense lobbying des marchands d'armes, comme le révèle cette enquête du média pan-européen Vox Europe en collaboration avec Mediapart. Conséquence, les investissements des fameux fonds verts européens dans l'armement ou la défense ont doublé depuis 2024 pour atteindre 50 milliards d'euros en 2025. Et cerise sur le gâteau, parmi les entreprises de défense bénéficiaires de ces fonds verts, plusieurs ont fourni à Israël des armes utilisées lors de la guerre génocidaire à Gaza, à l'image du britannique Rolls-Royce, qui fournit notamment des composants des chars israéliens. L'article de Mediapart précise que cette alliance de l'argent écolo et des marchands d'armes est activement promue par l'Union européenne.
Mais alors comment l'UE justifie le caractère durable de ces investissements ?
Et bien pour tout comprendre, retour en mars 2021 au moment de l'entrée en vigueur du règlement SFDR qui encadre la finance verte au niveau européen. En parallèle, le lobby des entreprises européennes de la défense, l'ASD, lance l'offensive et publie une note où il écrit, je cite, « En contribuant à garantir la sécurité, les fabricants européens d'armement apportent de facto une contribution essentielle à un monde plus durable. » Et 3 ans plus tard, en mars 2024, lorsque la Commission européenne publie sa stratégie pour l'industrie de la défense de l'UE, elle reprend presque mot pour mot cet argumentaire de l'ASD. Bilan des courses, les entreprises de l'armement et de la défense peuvent se mettre des fonds verts européens plein les poches et, comme le conclut l'enquête de Mediapart, les banquiers ont manifestement compris qu'il n'y avait plus de scrupules à avoir.
Et pour ta deuxième actu, tu voulais nous parler du racisme subi par les soignants et soignantes à l'hôpital public.
Et plus précisément d'une enquête publiée par le média féministe et antiraciste Lisbeth au mois de novembre qui révèle l'ampleur des discriminations racistes subies par les étudiants et étudiantes en soins infirmiers et donne notamment la parole à Myriam et Lagdar qui ont tous deux fait l'objet de remarques islamophobes lors de leur stage à l'hôpital de la part de patients ou de leurs collègues. La DESI, l'association de défense des droits des étudiants et étudiantes en soins infirmiers, qui s'est autodissoute en 2021 par manque de moyens, écrit dans son rapport d'activité que, je cite, « si en France la discrimination est illégale, elle est néanmoins largement tolérée » et ajoute que les étudiants et étudiantes qui portent plainte sont souvent dissuadés de porter leur démarche à leur terme. Résultat de cette silenciation, les victimes sont souvent découragées de se lancer dans un combat judiciaire souvent perdu d'avance, qui nécessite des ressources morales, psychologiques, intellectuelles et surtout financières, un coût que toutes et tous ne peuvent supporter, comme le rappelle l'enquête.
Et est-ce que des solutions pourraient permettre une meilleure réaction face à ces discriminations ?
Et bien dans l'article, le fondateur de l'ADESI évoque plusieurs pistes, comme la création d'un syndicat de défense des droits des étudiants infirmiers ou bien la mise en place d'un parquet national contre la discrimination pour mettre les membres de la hiérarchie face à leurs responsabilités. Mais en face, l'administration refuse de reconnaître formellement l'existence de maltraitance faite aux apprenants et apprenantes et préfère réduire cela à la pénibilité de l'exercice de la profession d'infirmier. Et en bref, les revendications de l'ADESI restent pour le moment lettre morte.
Et on reste en France avec cette affaire de chantage à la naturalisation subie par les Palestiniens et Palestiniennes résidant en France.
C'est le média Politis qui révèle ce scandale dans son numéro du 10 décembre dernier. L'enquête donne la parole à trois Palestiniens et Palestiniennes, Rola, Sarah et Mohamed, qui racontent leurs entretiens avec la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, au moment où ils demandaient la nationalité française. Entretien durant lequel on leur a suggéré de fournir aux renseignements des informations sur le mouvement associatif palestinien dans lequel ils étaient engagés. Le traitement réservé à ces trois Palestiniens et Palestiniennes lors de ces entretiens est particulièrement choquant. Un agent de la DGSI aurait ainsi par exemple dit à Sarah, je cite, « Si vous voulez devenir française et que vous tenez à la sécurité des Français, vous ne voulez pas d'un deuxième Mera », en référence à l'auteur de l'attentat antisémite de Toulouse et Montauban en 2012. Si Rola et Sarah ont fini par obtenir leur nationalité, Mohamed n'a pas encore eu cette chance. Ses deux demandes de naturalisation ont été rejetées au motif de son engagement au sein d'associations pro-palestiniennes qui sont, je cite, « susceptibles de le rendre indigne d'acquérir la nationalité ». Des cas loin d'être isolés et l'association Nidal, qui accompagne la diaspora palestinienne en France dans les procédures juridiques, entend s'emparer de cette question, je cite, « pour objectiver cette situation, pour montrer que ces procédés injustifiés participent à la suspicion généralisée et à la silenciation politique des Palestiniens ».
Et pour finir, tu nous parles d'une carte des nouveaux apôtres de l'extrême droite.
Et oui, le média Basta a publié début décembre une cartographie inédite des enquêtes sur les associations financées par la Nuit du Bien Commun, le gala de charité du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, et oui, encore lui. Une carte réalisée par le collectif de journalistes Hors Cadre avec le soutien du Fonds pour une presse libre qui se présente comme une carte de France où chaque point de couleur correspond à une enquête réalisée par un des 8 médias partenaires. Et comme cette émission, elle est super bien faite, sur cette carte on retrouve notamment l'enquête de la déferlante sur la maison Marthe et Marie dont on reparlera tout à l'heure avec Cléo et Rosane. La carte est dispo sur le site web de Basta et continuera d'être enrichie au fil des enquêtes publiées dans les prochains mois, alors restez à l'affût. Et voilà, c'était tout pour ma petite sélection de l'actu de la presse indé. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Eh bien, merci PA pour cette revue de presse de la presse indé. Comme tu l'as dit, on parlera tout à l'heure de l'enquête sur la maison Marthe et Marie, mais avant ça, place à la première partie de l'interview pour présenter le média La Déferlante. Je le disais en édito, aujourd'hui on est en compagnie donc du média indépendant La Déferlante et notamment de sa co-rédactrice en chef, Emmanuelle Josse. Rebonjour Emmanuelle.
Rebonjour.
Alors La Déferlante, c'est le média des révolutions féministes qui a été lancé en 2021. Qu'est-ce qu'il manquait à l'époque dans le paysage médiatique français et qui a poussé à créer ce média La Déferlante ?
À l'époque, donc en 2021, ça paraît il y a très très longtemps parce que beaucoup de choses sont survenues depuis. Mais à l'époque, donc on était, c'était une grande effervescence de tout ce qui était en ligne où les mouvements féministes s'étaient beaucoup rencontrés pendant des années 2000 parce que justement c'était un endroit où on pouvait aller facilement sans avoir accès aux médias légitimes et aux supports plus installés. Et donc en ligne, très naturellement, il y avait beaucoup de médias, beaucoup de podcasts. Rosane, notamment, on en parlait tout de suite, en a fait. Et puis, il y avait également en librairie énormément d'ouvrages qui sortaient. Et ce qui nous semblait manquer, c'était un format qui soit à la fois ancré dans cette actualité, dans ces choses qui émergeaient, qui n'étaient pas des créations là tout de suite, mais qui remontaient qui s'étaient sédimentées sur plusieurs années, voire décennies. Et donc, quelque chose qui, à la fois, pouvait suivre ces évolutions très rapides et, en même temps, qui soit cristallisé dans quelque chose qu'on pouvait mettre sur une étagère, qu'on pouvait garder, qui n'était pas dans le flux numérique. Et c'est comme ça qu'on est venu à se dire qu'il fallait une revue, un peu, pour arriver à trouver ce double ancrage, à la fois dans l'actualité et, en même temps, en faisant un peu date.
Une revue, tu l'as dit, et puis on le voit aussi sur le site et dans chacun des numéros, il y a une importance à accorder les féminismes au pluriel.
Ça vous paraissait aussi important pour analyser la complexité des enjeux, des débats qui existent autour de cette thématique ?
Bah oui, de manière générale, comme tout mouvement politique, social et intellectuel, les féminismes sont marqués par une grande diversité de concepts et puis une conflictualité très féconde, hein, puisqu'elle est, elle est ce qui permet de repenser des stratégies, de repenser des approches du monde, de renouveler aussi toute la réflexion. Et nous, on avait envie de tenir ces divergences, parfois ces confrontations, de les tenir ensemble, puis cette diversité simplement. Et puis il y avait aussi cette idée, en parlant directement d'être sur un pluriel, c'est d'être dans cette perspective intersectionnelle où les oppressions de genre, les oppressions liées aux identités de genre, aux identités sexuelles, puisque plus largement tout ce qui est lutte LGBTQIA+, ça s'articulait aussi à des oppressions de classe, de race, donc qu'il fallait envisager de manière également validiste. Donc il fallait envisager de manière plus globale le féminisme comme un endroit à travers lequel se jouaient des tentatives d'émancipation, mais qui ne pouvaient aller sans penser l'ensemble des oppressions. Donc voilà, c'était très important d'avoir dès le départ un prisme pluriel pour saisir ces mouvements.
Et donc, le résultat, pour parler de tout ça et pour saisir l'ensemble de ces mouvements, on obtient un trimestriel de plus de 120 pages.
Ouais, alors au début, il y a très longtemps, je crois qu'on avait des ambitions de fou. Je crois que les premiers numéros, je ne vais pas dire des bêtises, c'était 160 pages même. Après, on a un peu réduit. Et on est aujourd'hui à 128 pages parce que c'est parce que c'est un gros travail de faire une revue chaque mois, et chaque trimestre. Et puis par ailleurs, il y avait pas mal de retours de lectrices qui nous disaient « Nous n'avons pas le temps de tout lire et tout plonger. » Donc là, on a trouvé cet équilibre-là finalement assez rapidement. Au bout de 4 ans, on était sur ce nombre de pages. Donc c'est à la fois une parution trimestrielle qui s'adosse sur un site où les articles sont également consultables, et puis une newsletter qui elle est d'accès, qui est une newsletter d'actualité et de recommandations une fois par semaine, et qui elle est d'accès gratuite. Donc c'est un moyen de mettre à disposition cette information là puis de faire connaître la revue. Et puis également depuis maintenant 3 ans, mais là de manière un peu plus structurée, le développement d'une activité de publication d'ouvrages, dont on parlera probablement tout à l'heure.
Oui, avec une maison d'édition dont effectivement on reparlera un petit peu plus précisément tout à l'heure. Et l'ensemble de ces formats permet également d'avoir une variété assez considérable de contenu. Il y a des enquêtes, des reportages, il y a de la bande dessinée aussi dans les numéros de La Déferlante. Et puis il y a une importance particulière du graphisme, c'est revendiqué sur le site de La Déferlante. Quel est le choix graphique qui est fait derrière cette revue pour porter les messages véhiculés par La Déferlante ?
Bah, il y avait dès le départ, il y avait deux ambitions. Il y avait cette idée que, bon, déjà dans les pensées féministes, il y a un refus de hiérarchiser les supports en relégitimant à la fois des thématiques et des manières de les traiter, en disant il y a un intérêt à traiter la quotidienneté, la pop culture, tout objet peut être potentiellement politique pour peu qu'on cherche à le politiser. Et donc cette idée que on peut dire beaucoup de choses féministes à travers une analyse, un papier fouillé, etc. Comme on peut en dire beaucoup aussi à travers une bande dessinée, à travers un dessin réfléchi, c'était présent dès le départ. Après, la deuxième idée, c'était aussi que parfois, et de manière un peu intimidante dans les milieux militants aussi, parce que c'est assez compliqué de mettre en place des beaux objets graphiques, on fait des trucs un peu raides et parce que c'est sérieux, etc. Alors qu'il y avait cette idée qu'on a aussi besoin on a aussi besoin de beauté, de quelque chose qu'on puisse avoir envie de garder, qui accompagne des luttes qui par ailleurs sont très belles et où on doute aussi beaucoup, donc on a besoin de tout ça. Et le troisième point, c'est que il y avait, et on l'amène constamment, une réflexion à mener sur ce qu'est une iconographie féministe, sur la façon dont on représente les corps, sur la façon dont on met en scène diverses situations, puisque Les femmes, les minorités de genre, plus globalement toutes les populations minorisées sont pas seulement hors des récits, hors des politiques publiques, mais elles sont aussi hors des images. Et donc il y avait aussi cette idée de visibiliser et d'avoir une vraie réflexion politique sur ce sujet-là.
Donc résultat, une réflexion politique poussée, un bel objet. Tout ça, ça participe aussi à, j'imagine, porter un modèle économique de la déferlante, de vouloir acheter justement ces revues-là. Sur quoi d'autre s'appuie le modèle économique de la déferlante ?
Alors, c'est une revue donc indépendante, donc il n'y a pas de... les quatre cofondatrices, on est une garante de l'indépendance éditoriale du titre. On s'est adossé en 2023. On a fait une levée de fonds, ce qui paraît très intimidant, mais en gros, on est allé chercher des actionnaires qui sont des personnes, c'est pas Bernard Arnault du tout, mais plutôt des personnes qui arrivent en soutien, beaucoup de lectrices hein, essentiellement. Donc voilà, avec cette idée qu'il fallait garantir l'indépendance de cette manière-là. C'est un média sans publicité aussi. C'est quelque chose qu'on a toujours mis de côté pour diverses raisons, notamment parce que la publicité, ça crée de la dépendance à des annonceurs. Ça casse aussi une forme de message. Donc, sans publicité. Et puis, un média où toutes les travailleuses qui sont, et on le revendique, en majorité des femmes, minorité de genre, des personnes racisées. Il y a une vraie réflexion aussi sur les personnes qui travaillent pour la revue. Et du coup, tout le monde est rémunéré, puisque dès le départ, il y a une grande tradition de médias féministes qui ont été menés de manière bénévole. Mais le bénévolat, c'est difficile d'assurer la pérennité d'un média. C'est difficile aussi de faire tenir des énergies. Et du coup, donc il y avait aussi cette ambition-là qui explique le prix de la revue, que par ailleurs, on a revu cet été un peu à la hausse parce que le prix du papier a flambé ces dernières années. Le prix de la distribution postale aussi. Donc après 5 ans à peu près au même tarif, on a dû un peu réajuster les tarifs. Et voilà, aujourd'hui, on est à 13 500 abonnés sur chaque numéro, entre 3 000 et 5 000 ventes en librairie en fonction des numéros et de manière assez constante. Parce que la spécificité de la revue, c'est donc d'être à la fois très ancrée dans le monde des médias, mais aussi d'avoir un pied très réel dans le monde du livre à travers une présence en librairie dès le départ qui a été un très fort soutien des librairies indépendantes.
Donc une des façons de soutenir justement la déferlante, c'est d'aller en librairie,
c'est ça,
de se procurer les numéros de la déferlante.
De s'abonner plutôt.
Et de s'abonner.
Enfin, c'est super d'aller en librairie, mais s'abonner, c'est encore...
Ça permet de pérenniser un petit peu.
Parce que ça, c'est des avances sur chaque numéro en fait.
Eh bien maintenant qu'on connaît un petit peu mieux la déferlante, qu'on sait comment soutenir ce média, et avant de poursuivre, on écoute une pause musicale. Vous pouvez pendant ce temps-là vous abonner justement sur le site de la déferlante, revueladéferlante.fr, et on revient tout juste après sur Radio Campus Paris.
Hi mommy.
On est de retour sur Radio Campus Paris, on vient d'écouter Hi Mami de Cara Elisabeth et vous écoutez Quatrième Murmure.
Quatrième Murmure sur Radio Campus Paris.
Dans ce cinquième épisode de Quatrième Murmure, on reçoit le média des révolutions féministes La Déferlante. À chaque numéro, vous pouvez y retrouver, entre autres, des reportages et des enquêtes. Et justement, Cléo, toi, tu reçois aujourd'hui Rosen Le Carboulec, qui a co-rédigé une enquête parue en décembre sur le site de La Déferlante.
Bonjour, Rosen Le Carboulec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Quatrième Murmure. Donc, tu es journaliste indépendante, membre du collectif Hors Cadre et collaboratrice régulière de Mediapart, La Déferlante et bien d'autres. Tu as été rédactrice en chef du média Têtu et également créé le podcast Queer, donc Q-U-O-U-I-R, pour Nouvelle Écoute. Pendant environ 6 mois, tu as mené avec la journaliste Sarah Bosquet une enquête sur les colocations de la maison Marthe et Marie. Cette association propose des hébergements solidaires à des jeunes mères et des femmes enceintes dites en situation difficile sur le site de l'association. Ces logements sont présents dans plusieurs villes françaises. Publié sur le site web de La Déferlante au mois de décembre, votre enquête montre que derrière sa façade laïque et apolitique, l'association fait du prosélytisme contre l'avortement. Elle révèle qu'elle est financée par des fonds publics en plus de bénéficier de soutien privé de la sphère catholique ultra-conservatrice. Alors pour commencer, Rosen, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à enquêter sur ce sujet? Qu'est-ce qui t'a alerté?
Ce qui m'a amenée à travailler sur ce sujet, c'était que, de par mon travail les années passées sur la galaxie réactionnaire issue des mouvements de la Manif pour tous, notamment le mouvement qui s'est opposé à la loi du mariage pour tous, toutes et tous en 2012 et 2013 en France, j'ai analysé peu à peu les mouvements qui avaient pu émerger de ce mouvement social d'ampleur à l'époque. Et j'étais tombée sur plusieurs associations qui disaient accueillir des femmes enceintes vulnérables, parmi lesquelles la maison de Marthe et Marie. Il faut savoir qu'il y en a au moins une dizaine du même type en France aujourd'hui, dont sans doute au moins un tiers qui sont financés par la galaxie du milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Sterrin, dont on aura l'occasion, j'imagine, de reparler. Et on s'est intéressé plus particulièrement à cette association, la Maison de Marthe et Marie, parce que on s'est aperçu rapidement que dès 2017, en fait, il y avait eu des alertes sur cette association qui avait été lancée par le Conseil régional d'Île-de-France, notamment la conseillère communiste Céline Malaisé. Le Conseil régional d'Île-de-France qui finançait déjà amplement la Maison de Marthe et Marie à l'époque. Et des alertes avaient été données pour dire que c'était une association qui faisait du lobbying anti-IVG. Sauf qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de source pour l'affirmer, la source principale étant un article qui avait été publié par Famille Chrétienne en 2015, donc ça commence à remonter maintenant, et qui classait la maison de Marthe et Marie avec d'autres associations parmi des associations qui disent non à l'IVG et qui accueillent les femmes vulnérables. Et après, il y avait quelques liens faits un peu brièvement avec des associations conservatrices du type la Fondation Jérôme Lejeune, Alliance Vita, voilà, qui sont ouvertement anti-avortement. Mais on s'est dit que il y avait quand même de quoi creuser pour revenir un petit peu sur ces affirmations.
Comme tu l'as dit, la Maison Marthe et Marie, ce combat insidieux contre l'avortement mené par l'association, il se reflète notamment donc dans les partenaires et les soutiens catholiques ultra très réactionnaire. On a parlé un peu des organismes privés qui la financent, notamment la Galaxie Sterrin. On parle, est-ce qu'il y en a d'autres? Et on parle d'aide à hauteur de combien?
Alors peut-être déjà pour présenter la galaxie de Pierre-Édouard Sterrin, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas le monsieur. Donc Pierre-Édouard Sterrin, c'est un homme d'affaires qui est évadé fiscal en Belgique parce qu'il ne veut pas payer d'impôts. Et qui s'est révélé assez ouvertement d'extrême droite ces dernières années, notamment via une enquête qui a été publiée par l'Humanité en 2024, qui révèle que Pierre-Édouard Sterrin est derrière un projet d'ampleur qui s'appelle Périclès. Alors je vous fais peut-être pas l'acronyme, mais toujours est-il que ce projet Périclès, son but, c'est déployer 150 millions d'euros en vue de favoriser une victoire électorale de la droite et de l'extrême droite, et donc qui participe à cet élan d'ampleur qu'on constate en ce moment de fusion et d'alliance entre la droite et l'extrême droite en France. Son projet politique est assez clair. Ce monsieur, par ailleurs, a affirmé dans une interview il n'y a pas longtemps qu'il incitait les Français à avoir plus de bébés de souche européenne et à les faire baptiser. Donc on est clairement sur un projet nataliste, eugéniste, raciste, voilà, tout ce qu'on veut. Et donc voilà, ce monsieur Pierre-Édouard Sterrin a créé plein de fonds de dotation. Enfin, il a un écosystème vraiment énorme. Je vous invite à aller voir un travail qui a été fait par l'Observatoire des multinationales, qui a fait une cartographie de son écosystème, qui va être mise à jour bientôt, là, qui est voilà, assez vaste. Et dans cet écosystème, donc, il y a notamment les Nuits du Bien Commun, qu'il a cofondé, qui sont des levées de fonds caritatives pour financer des associations, la plupart plutôt conservatrices et catholiques, alors pas toutes, hein, faut pas toutes les mettre dans le même panier, mais beaucoup. Et il s'avère que la Maison de Marthe et Marie a été financé au moins 7 fois par ces Nuits du Bien Commun et a à travers ça gagné, je crois que c'était au moins 400 000 euros. Alors on n'a pas accès à toutes les sommes de ces Nuits du Bien Commun parce qu'au fur et à mesure, avec les polémiques qui ont enflé sur Pierre-Édouard Sterrin, les Nuits du Bien Commun ont supprimé leurs archives de leur site internet, donc on ne peut plus revoir les cérémonies, on ne peut plus revoir les soirées. Donc c'est bien plus difficile de mettre la main là-dessus. La Maison de Marthe et Marie a aussi été financée à hauteur de, je crois, 100 000 euros par le Parvis Solidaire, qui est une soirée de levée de fonds caritative elle aussi, mais qui a lieu cette fois dans les Hauts-de-Seine, qui est elle aussi organisée par Obol, qui est la société de Pierre-Édouard Sterrin qui organise les Nuits du Bien Commun. Voilà, et puis divers plein d'autres fonds privés, parmi lesquels le fonds de dotation Stella Domini, qui est aussi un fonds de dotation français, créé par un monsieur qui s'appelle Loïc Labouche, qui est à la tête de Domino RH, et qui finance plein d'associations conservatrices en France. Voilà, et je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup.
En plus des financements privés, vos recherches ont révélé un autre fait notable, donc des sources de financement public de l'association. Un projet de rénovation d'un monastère à Paris est en cours et est supposé accueillir une nouvelle colocation de la maison Marthe et Marie, donc dans le 6e arrondissement. La mairie de Paris a déjà accordé des subventions très importantes pour ce projet. Quelles ont été les conséquences de vos révélations sur ce financement ?
Alors ce projet, donc ça s'appelle le projet de la maison de la Visitation Vaugirard et qui nous a attiré notre œil pour plein de raisons, parce qu'il appartient, c'est une maison qui appartient au diocèse de Paris, qui est vraiment, qui jouxte l'hôtel particulier de Gérard Depardieu. Enfin voilà, il y a plein d'informations assez étonnantes sur ce projet et qui doit accueillir, donc c'est un projet de rénovation d'ampleur, qui doit accueillir 3 associations, Simon de Sirène, l'Association pour l'Amitié et la Maison de Marthe et Marie. Donc ça doit être là, je ne sais plus, 11e ou 12e colocation en France de Marthe et Marie, qui en a déjà au moins une dizaine aujourd'hui. Il faut savoir que ces 3 associations ont pour point commun d'être financées par la galaxie, enfin l'écosystème de Pierre-Édouard Sterrin. Et particulièrement, effectivement, la Maison de Marthe et Marie. Et donc ce projet, effectivement, bénéficie de nombreux financements publics. Il faut savoir que la mairie de Paris prévoit de le financer à hauteur de 4,6 millions d'euros. Donc c'est énorme, dont 700 000 euros uniquement pour la maison de Marthe et Marie. La région Île-de-France le finance à hauteur de 700 000 euros. Voilà, etc., etc. La préfecture de la région Île-de-France également. Et effectivement, notre enquête a eu quelques petits impacts. En tout cas, elle a eu le mérite d'alerter des politiques. Donc je sais par exemple que il y a eu un vœu relatif au financement de la maison de Marthe et Marie qui a été présenté par les écologistes au dernier conseil de Paris. Donc qui a lieu mi-décembre et qui a demandé des précisions du coup sur ce financement et suite à ça la mairie de Paris s'est engagée à suspendre les versements au projet, sachant que aujourd'hui sur ces 4,6 millions d'euros, je crois qu'il y a que ce qui reste énorme, hein, mais il y a que 40 000 euros, je crois, qui ont été versés. Voilà, donc dans l'attente de confirmation, effectivement, il y a une suspension du versement et il y a aussi eu un amendement déposé par Céline Malaisé, justement, dont je parlais tout à l'heure au Conseil régional d'Île-de-France, pour avoir des précisions sur ces subventions.
Et pour finir très rapidement, ce travail d'investigation avec Sarah Bosquet, il a été réalisé, donc on l'a dit, en partie grâce au Fonds pour une presse libre qui a lancé un appel à projet pour enquêter sur l'extrême droite. Est-ce que tu peux nous parler de cette aide financière et surtout ce qu'elle a permis à votre collectif qui s'appelle Hors Cadre de réaliser ?
Ouais, donc oui, comme je le disais au début, cette enquête, elle a été permise parce qu'avec mon collectif Hors Cadre, collectif de journalistes pigistes indépendants, on a été lauréat d'un appel à projet du Fonds pour une presse libre qui a été lancé par Mediapart pour enquêter sur l'extrême droite. Et nous, on a choisi d'enquêter sur les associations, du coup, financées par l'écosystème de Pierre-Édouard Sterrin. Et donc, c'est un projet qui a été porté par le média Basta, parce qu'il nous fallait un média porteur, et ensuite qui a été déployé dans plein de médias partenaires indépendants, du coup, dont la Déferlante, pour qui on a fait deux enquêtes. Et effectivement, sans cet appel à projet, je pense qu'on n'aurait pas, pu passer autant de temps sur ces enquêtes. Donc ça montre aussi la précarité du travail journalistique d'enquête, quand on est pigiste en tout cas. Donc on a travaillé là-dessus avec au moins une dizaine de journalistes du collectif. C'est un projet hyper porteur, hyper stimulant. Et on peut retrouver l'ensemble de nos enquêtes sur le site de Basta. Je crois que la Déferlante aussi a partagé la carte. Oui. Mediacité, avec qui on a collaboré aussi, a partagé une cartographie qui a été réalisée par Widou Data. Et qui répertorie les associations qu'on a enquêtées. Et donc, on peut cliquer sur différentes structures, sièges, etc. de l'association pour voir combien chaque association a reçu de financement privé, de financement public. Et on a comme ça accès aux enquêtes.
Trop bien. Merci beaucoup, Rosane. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle à nos auditeuristes que vous pouvez retrouver l'enquête sur la maison Marthe et Marie sur le site de La Déferlante. Et vous pouvez aussi en lire d'autres en achetant le dernier numéro en librairie ou en vous abonnant.
Eh bien, merci Cléo et merci Rosane pour cette enquête. Comme tu l'as dit, Cléo, qu'on peut retrouver sur le site revue-la-déferlante.fr. Et alors, La Déferlante, justement, c'est pas seulement un site ni un trimestriel, c'est aussi une maison d'édition, Emmanuel Joss. Donc, toi, tu es rédactrice en chef de La Déferlante, co-rédactrice en chef de La Déferlante. Le projet, actuellement, c'est de pousser et de développer plus intensément la maison d'édition. Et à ce sujet, Chiara, qu'on accueille d'ailleurs en studio. Salut, Chiara.
Bonjour.
Toi, tu as préparé quelques questions pour en savoir un petit peu plus.
Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Et bonjour plus particulièrement à toi, Emmanuel.
Bonjour.
Donc, comme on a dit, cofondatrice et co-rédactrice en chef de La Déferlante, mais tu supervises également votre maison d'édition en parallèle de la revue qui se nomme La Déferlante Édition. Et du coup, j'ai quelques questions plus précisément sur cette maison d'édition. Donc, déjà, pour rappel, la revue, donc, comme tu l'as dit précédemment, elle a existé à partir de 2021. Donc, elle existait déjà depuis un peu moins de 2 ans lorsque vous avez créé votre maison d'édition en avril 2023, si je ne me trompe pas. Et donc, ma première question, ce serait comment est venue l'idée de la créer ?
Ça, c'est comme beaucoup de nos projets, c'est venu comme une opportunité, au sens où on avait une histoire avec Tal Madesta, qui est donc l'auteur de l'auteur du premier ouvrage qu'on a publié, La fin des monstres, récit d'une trajectoire trans, qui est un livre qui a une très belle visibilité. Enfin, ils s'y sont vendus à plus de 10 000 exemplaires. Il a accompagné beaucoup de personnes, que ce soit dans leur transition ou dans les entourages aussi. Enfin, c'est de personnes trans. Donc, c'est un livre qui a tout de suite été une expérience très forte. Et en fait, ça s'est créé parce que Tal, au premier numéro de La Déferlante, nous a écrit pour nous dire qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont on traitait, en l'occurrence, la question. Notre premier numéro avait pour thème naître, c'était geste inaugural. Et donc, Tal n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Et donc, un dialogue s'en est suivi. Il a commencé à écrire des chroniques pour la revue, dans lesquelles il racontait, en la problématisant, en la politisant sa transition de genre. Et on s'est dit, là, il y a, une plume, il y a une voix, et il y a envie de continuer cette collaboration. Et c'est comme ça qu'on a fait un premier ouvrage qui donc a rencontré à la fois un public qu'on était politiquement très fiers de porter. Et c'est comme ça que ça s'est, qu'on s'est dit un premier livre, un deuxième ouvrage qui est arrivé ensuite à l'automne 2023, qui était le livre de Marie Daucher, L'amour aussi, où elle, pareil, c'était né d'une collaboration dans les pages de la revue. Elle avait un projet de longue date qui était de prendre des images de femmes lesbiennes, de couples lesbiens et de familles lesbo-parentales avec cette idée de visibiliser des récits. Alors, c'était à la fois des images et puis à chaque fois une interview pour raconter des parcours et amener quelque chose de représentation qui manquait, qui manque encore dans le paysage. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, parce que naturellement, il y avait à la fois dans nos pages des personnes qui avaient des choses à raconter, à photographier, à dessiner. Et puis ensuite, parce qu'en fait, faire une revue, c'est faire un livre en plus compliqué, hein, parce qu'une revue, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui intervient, alors qu'un livre, finalement, c'est plus réduit comme cercle de collaboration. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à faire des livres et à avoir envie d'en faire plus.
Ok, trop intéressant. Et justement, est-ce que du coup, vous collaborez toujours avec les mêmes auteuristes ou dessinateuristes que vous connaissiez déjà avant ou qui étaient déjà dans votre cercle, potentiellement qui avaient déjà collaboré au sein de la revue? Ou est-ce qu'il y a une, ou peut-être que c'était le cas au début, mais que maintenant il y a une volonté de s'ouvrir peut-être à d'autres auteuristes et d'autres dessinateuristes ou photographes du coup aussi?
C'est un mélange des deux. On a quand même, en général, dans les ouvrages là qu'on a, notamment à ceux à venir, c'est déjà des gens avec qui on a travaillé des opportunités. Mais par exemple, Élodie Font qui a écrit un livre qui s'appelle À nos désirs, dans lequel elle a mené une très grande enquête. Elle a interviewé beaucoup de femmes lesbiennes sur justement leur rapport à la sexualité. Et un livre qui a également très bien marché. On n'avait pas travaillé avant ça avec Élodie. Élodie avait déjà fait une bande dessinée qui avait très bien marché, qui s'appelle Coming In. Elle vient beaucoup de la radio, elle a fait des podcasts. Mais quand elle nous a proposé ce projet-là, on se connaissait par intermédiaire, mais pas directement. Donc ça arrive aussi de l'extérieur, même si dans les faits, je veux dire, tout est un peu ouvert parce qu'il n'y a pas de politique éditoriale qui voudrait qu'il faille avoir fait quelque chose dans la revue pour ensuite. Voilà. Et par ailleurs, pour le moment également, en termes de. On est beaucoup allé au coup de cœur. On s'est dit, on fait un essai avec Tal. Marie Daucher, photographe, elle est venue avec des photographies. On fait un livre photo. On a fait un livre jeunesse également qui s'appelle Idou avec une illustratrice, Léa Jésiri, avec qui on avait beaucoup, beaucoup collaboré et on continue dans les pages de la revue. Mais dans l'ensemble, là où on est beaucoup, c'est sur l'endroit des essais, de la non-fiction, du texte politique. Parce que c'est là où on est dans notre ligne de nage, mais c'est un peu étroit. Mais disons que par exemple, faire de la fiction, c'est une autre manière de travailler. C'est une autre manière aussi de rencontrer les libraires, de rencontrer les lectrices. Peut-être que ça viendra un jour, mais en tous les cas, c'est pas dans les médias.
D'accord. Et j'ai vu que sur sur votre site internet aussi, vous mentionnez le fait que vous aviez envie d'aller plus vers de la bande dessinée aussi. Donc, il y a une volonté quand même d'aller vers.
La bande dessinée, on est en train de réfléchir aussi à un projet en cours. La bande dessinée, alors c'est une économie encore très particulière parce que pour faire une bande dessinée, il faut un an de travail de à peu près 2-3 personnes, les personnes qui écrivent le scénario, les personnes qui illustrent. Donc c'est encore une autre économie. C'est pareil, un secteur à chaque fois, c'est chaque type d'ouvrage a ses contraintes sectorielles. Le marché de la bande dessinée, il est très très saturé. En même temps, ce qui est génial, on le voit encore là avec le festival d'Angoulême qui fait l'objet d'un girl code. beaucoup d'autrices. C'est un sujet qu'on a pas mal traité dans la revue, notamment avec une journaliste qui s'appelle Marie Kirchen. On a suivi le MeToo de la bande dessinée, la façon dont ce secteur vu pendant très longtemps comme très masculin, même s'il y a déjà dans les années 70 des voix comme... il y a déjà une tradition de politisation à travers la BD d'autrices féminines ou féministes. Aujourd'hui, c'est on voit comme ça émerger une génération d'autrices dont un certain nombre ont écrit ont illustré nos pages. Donc on en est hyper hyper heureuse. Et voilà, donc c'est pour ça que la bande dessinée, dans chaque numéro, il y a une bande dessinée inédite et ça nous met en contact, en lien et en amitié naturelle avec ces générations d'illustratrices très politisées, féministes, queer, très beaucoup sur l'antiracisme également. Donc
oui, tout à fait. Je voulais poser des questions après avoir vu un peu les différents types d'ouvrages très variés que vous publiez. Je me demandais plutôt sur les sujets de fond, comment vous faites vos choix. Je sais que, par exemple, sur votre site internet, mais après c'est également pour la revue, on peut y voir votre manifeste. Je me demandais quelles étaient les valeurs un peu de votre maison d'édition, les sujets qui vous portent le plus. Est-ce que c'est exactement les mêmes que ceux de la revue? Si oui, on peut les rappeler. Et si c'est différent, en quoi c'est différent?
Aussi bien dans la revue que sur la maison d'édition, on est en train de se dire que là, le moment qu'on vit de fascisation, où l'extrême droite arrive partout, c'est ce que disait Rosen, on le voit dans des associations, notamment se présentant en défense des femmes, on le voit dans des politiques publiques, on le voit dans la banalisation de quantité de discours, le féminisme est une porte. Le féminisme est une porte d'entrée de politisation, notamment de. Je sais pas pour vous, je suis plus âgée que vous, je pense, mais notamment de politisation de jeunes femmes, parce que moi j'ai 44 ans, j'ai pas eu la chance de vivre ça. Mais il me semble que aujourd'hui, quand on a 20 ans, on est plus armé que quand moi j'en avais 20. Mais le fait est que ça aiguise un certain regard sur le monde. C'est un endroit où on conscientise qu'il y a des oppressions liées aux femmes, mais qui se pensent aussi, qui se déclinent, hein, toujours en termes de classe sociale, en termes de racialisation aussi des vies et d'expériences racistes. Donc ça ouvre des perspectives qu'on aimerait davantage embrasser là, pour pouvoir s'ouvrir continuer de s'ouvrir à tout ce qui est possibilité, horizon un peu émancipateur, parce qu'on a besoin de ça. Donc là, dans les projets qu'on aura, notamment, il y a peut-être pour l'année à venir, mais tout ça est encore de réflexion encore, parce que ça prend du temps de monter un projet d'ouvrage, de faire quelque chose sur le racisme, et puis encore d'autres projets, pour l'an prochain aussi, une bande dessinée. Mais là, pour le coup, le gros sujet qui nous préoccupe pas mal ces derniers temps, ça a été, on a sorti en novembre un livre qui s'appelle Grandir sans tabou, qui est un guide pour accompagner les adultes qui veulent parler éducation à la sexualité dans une perspective féministe. C'est une réflexion, c'est des pistes en toute humilité pour faire davantage des questions que. Et là, on continue dans cette réflexion sur l'enfance et comment on protège les enfants, notamment par rapport à cette question des violences sexuelles. Le 6 février, on sort un ouvrage de Sarah Boucaud, qui s'appelle « De l'autre côté de l'inceste », et dans lequel, c'est typiquement quelque chose qui est né dans les pages de la revue. Sarah Boucaud avait mené une grande enquête sur l'inceste commis par des enfants. Un sujet extrêmement dur à réfléchir, à penser, parce que ça met en scène... C'est assez effrayant d'imaginer que ça arrive. Et puis, que fait-on ensuite d'enfants quand on n'a pas envie de mettre tout le monde en prison? Comment on prend en charge des enfants dans un contexte où, par ailleurs, l'enfance est très, très abîmée par les politiques publiques? Donc voilà, la réflexion de Sarah s'est prolongée dans un ouvrage où elle va justement questionner les violences sexuelles, les dominations, tout ce qui est domination incestueuse dans les familles. Et puis, quel type de justice aussi on veut sur ces publics très vulnérables que sont les enfants, mais aussi plus globalement à l'échelle d'une société.
Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Malheureusement, Il faut qu'on s'arrête juste ici. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et retrouvez du coup les prochains livres publiés par La Déferlante Édition. Suivez-les sur les réseaux sociaux pour savoir les dernières actualités et retrouvez-les en librairie. Merci beaucoup.
Et oui, merci Chiara, merci Emmanuel pour toutes ces précisions. Donc on le répète, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre dans toutes les bonnes librairies pour vous procurer les ouvrages de La Déferlante et tous les numéros qui continuent de paraître. Avant de faire une nouvelle pause musicale, Ilona, toi tu vas nous parler d'un nouvel outil bien pratique pour les médias indépendants.
Oui, merci PY. Est-ce que vous reconnaissez ce bruit ? Oui, c'est bien celui d'une gifle. Slap, en anglais. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des slaps. Mais pas des gifles. Pardon, c'est vraiment pas très clair tout ça. Je vais vous parler de SLAP. S-L-A-P-P. Strategic Lawsuit Against Public Participation. C'est-à-dire les poursuites stratégiques altérant le débat public. Tout ce sketch pour introduire cette notion dont l'équivalent français est la procédure Bayon. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des poursuites judiciaires dont l'objectif premier n'est pas d'obtenir une victoire juridique, puisqu'en réalité elles n'ont souvent aucune chance d'aboutir, mais plutôt d'épuiser dans tous les sens du terme, financièrement, personnellement, émotionnellement, les personnes physiques ou morales visées. Le but ultime est donc de faire taire, faire déployer des frais de procédure exorbitants et d'intimider en espérant réduire au silence celles qui s'en prennent aux puissants de ce monde. Et oui, lorsque ces derniers sont naturellement mécontents de voir leurs affaires exposées au grand jour, ils ont plus d'un tour dans leur sac pour dissuader des journalistes et des organisations non gouvernementales de faire leur travail et d'informer la société civile. Il n'existe pas de statistiques publiques exhaustives sur le sujet en France. En revanche, une étude commandée par le Parlement européen datant de novembre 2023, fondée sur les affaires recensées et documentées entre 2022 et 2023, montre que la France représente 10,6% des cas de procédure Bayon identifiés, ce qui la place en quatrième position ex aequo avec la Bulgarie. Face aux tentatives d'étouffement du débat public, des choses se mettent en place pour y faire face. Au niveau européen, une directive anti-slap a été adoptée en avril 2024 qui vise à mieux protéger les médias contre ces procédures abusives, en facilitant leur rejet et en limitant leurs coûts. Dans un article publié en décembre dernier, Reporters sans frontières appelait à transposer en urgence dans le droit français cette directive, une affaire prévue d'ici mai 2026. Ce ne sont pas que les médias indépendants qui sont visés, mais ces poursuites Bayon représentent une menace particulière à leur encontre. On peut citer l'exemple de Street Press qui compte à ce jour 13 poursuites en justice à leur encontre pour des faits révélés dans leurs enquêtes. En 2024, le média rapportait avoir dépensé 51 000 euros en frais de justice. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et c'est une manière non négligeable de fragiliser la presse indépendante. C'est pourquoi le Fonds pour une presse libre et l'ONG Media Defense ont créé Ripost, un fonds d'aide juridique pour la presse indépendante. Le but est d'aider financièrement la défense des médias ciblés, mais aussi, je les cite, d'encourager une stratégie de défense offensive, par exemple par des demandes de sanctions financières réelles, des demandes de publication de communiqués judiciaires, etc. Si jamais, au plus grand de notre malheur, l'extrême droite vient au pouvoir, on peut facilement imaginer que ces procédures Bayon présenteront d'autant plus un levier assurément utilisé et abusé pour museler la presse indépendante. Donc, il y a une certaine urgence à se prémunir face à celle-ci. Si vous souhaitez en savoir plus sur ces histoires, je vous invite à lire « Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG », écrit par la juriste Sophie Lemaître, qui approfondit le sujet en long et en large. Merci de m'avoir écouté.
Merci à toi Ilona pour ta chronique. Allez, c'est l'heure d'une deuxième mini pause musicale tout en douceur avec l'artiste Liléa et son titre Faux.
Tu venais que le soir, je te connecte dans le noir, perdu dans ton regard, je ne voulais rien savoir, rempli de poison qui te fait oublier la veille, on sait que la vision est floue. Comme si tu me voyais que dans le fond de la bouteille, je me demande à quoi tu joues. On l'a fait, on s'est quitté après l'orage. Je me rappelle de tes mains sur mon visage. Je sais bien que je n'étais que de passage, mais je peux pas tourner la page. Tu m'as mis dans le fou. Embrasse et tu tu me brises comme en fermant ta presse.
On vient d'écouter Faux de Liléa, une chanson toute douce qu'on peut retrouver dans la fraîche liste de Radio Campus Paris.
Quatrième murmure sur Radio Campus Paris.
C'est bientôt la fin de cet épisode. Vous écoutez toujours Quatrième Murmure. Mais avant de nous quitter, on fait un détour en Provence, dans la région de Nice, où Marion a rencontré Mako Dragan, le rédac-chef du média Mouais.
Je me casse de Paris.
Je vais voyager.
Je fais le tour de France.
Il y aura toute la presse locale.
J'avais peut-être tout simplement envie de voir du pays.
Cet hiver, je suis partie me réfugier bien à l'abri du froid, entre mer et montagne, sous le doux soleil de Nice. Nice ? Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir comme média indépendant ? Toute cette ville est de droite ! Toute ? Non. Dans les ruelles du vieux Nice, et au-delà de ses collines, une joyeuse bande d'irréductibles lutte encore et toujours contre la fascisation galopante à grands coups de papier bien sentis. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de ses membres en la personne de Matchko Dragan, rédacteur en chef du média Mouais. Autour d'une gigantesque assiette de tapenade et de pain grillé, on papote. Un chat noir en guise de logo ? Un journal qui se revendique dubitatif ? C'est quoi la ligne éditoriale de Mouais ?
Nous, on n'hésite pas à se revendiquer anarchiste, et donc c'est notre ligne éditoriale. Donc ça signifie, en termes de ligne, que la définition de l'anarchiste, c'est la critique de toute forme de domination. Donc en soi, c'est rien de fifou, hein, juste on est contre toute forme de domination. Donc on a une ligne éditoriale qui critique aussi bien le patriarcat, que le racisme, que tout le système, tous les systèmes institués qui imposent une domination sur une catégorie donnée de population. Et la différence peut-être, parce que ça, ce que je viens de décrire, c'est normalement, j'espère, le point de vue de toute la gauche, quoi. Enfin, espérons-le. Mais ce qui caractérise, c'est aussi le côté, et qui pour le coup vient vraiment de la tradition de la presse anarchiste, notamment depuis le 19e en France, qui est celle de la propagande. Enfin, nous, on assume le fait qu'on fait de la propagande. Ça ne veut pas dire qu'on fait de la désinformation, ça ne veut pas dire qu'on ment, ça ne veut pas dire qu'on fait le travail qui est celui de tout journaliste, qui est le même celui que l'universitaire, c'est-à-dire recouper, traiter les sources, citer ses sources et faire un travail d'enquête et d'information, de recoupement. Mais ça veut dire qu'on a une idéologie qui est assumée, contrairement à Christophe Barbier ou Léa Salamé qui ont une idéologie mais qui n'est pas assumée du tout. Nous, on l'assume, on dit qu'on est anarchiste et on fait en sorte que l'idéologie anarchiste puisse être véhiculée et on fait de la publicité pour la pensée anarchiste en montrant que pour nous, c'est le meilleur modèle de vie commune, de vivre ensemble qui existe actuellement et une solution pour tous les problèmes écologiques et sociaux que notre pays, que le monde entier connaît. Même si, encore une fois, je me répète, on respecte les faits en fait. Il y a une réalité des faits qui est celle de la réalité statistique, la réalité sociologique, la réalité économique. On respecte ça et on travaille à partir de ça, mais à partir d'une base qui est idéologiquement marquée, mais qu'on assume parfaitement, contrairement à beaucoup de nos ennemis idéologiques qui, eux, n'assument pas, qui partent d'une base néolibérale, capitaliste, patriarcale, etc.
Les présentations étant faites, on va pas se mentir, commencer un média, c'est quand même du boulot. Alors, qu'est-ce qui a donné l'impulsion initiale ?
Nous, on venait plutôt du milieu des fanzines. On a retrouvé d'autres camarades qui avaient créé un journal qui s'appelait Mouais, du coup, au moment des rencontres qui étaient issues de Nuit Debout et aussi de l'attentat de Charlie, avec une volonté de défendre la liberté d'expression, même si bon, notre rédaction est très critique de ce qui est devenu, de ce qui était déjà Charlie à l'époque et de ce qui est Charlie aujourd'hui. Mais il n'empêche que on vient aussi de cette tradition-là du Charlie d'il y a très 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 longtemps. On vient aussi de ça, de la presse satirique. Et aussi du coup de tout l'aspect de critique des médias qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, auquel moi pour le coup j'ai participé avec mes camarades. Et où là il y avait tout cet passé de vouloir recréer une autre presse, parce qu'on voyait très bien que la presse mainstream était en bout de course dans la façon de traiter le mouvement des Gilets jaunes. Et il y avait un discrédit généralisé auquel était exposée toute la corporation médiatique. Et nous on voulait, avec tout ça, avec Nuit Debout, avec les Gilets jaunes, avec tout le mouvement des fanzines, du punk aussi d'où on vient, il y a eu l'idée de se revendiquer d'une autre forme de journalisme populaire, autogéré, faite par le peuple pour le peuple, venu d'en bas. Et c'est de là d'où on vient. Ça, cumulé à une tradition niçoise alternative, autogestionnaire, carnavalesque, festive, rigolarde, ça a donné Mouais, quoi.
Ensuite, je lui ai demandé si le contexte local avait joué dans la création du média. Parce que bon, encore une fois, on va pas se mentir, Nice, niveau paysage politico-médiatique, on est
Sur une ville de droite, quoi.
Alors, je vois pas de ce qui te fait dire ça. Vraiment, c'est... dire du mal comme ça de notre ville adorée.
Bon, on va au moins dire un paysage assez homogène, quoi. Est-ce que ce contexte, qu'on peut voir comme désavantageux, a joué dans la construction de Mouais ?
Quand tu fais une action militante, à échelle locale, et ce, que ce soit à Nice ou n'importe où ailleurs, t'as souvent un monde entre ce que tu fais et la façon dont ça va être retranscrit à l'échelle médiatique locale, quoi. Et en fait, oui, l'actu locale, elle est faite souvent par des médias qui ont une lecture biaisée, et pour le coup, eux militantes, mais dans l'autre sens de notre vie de militants à nous. Et en fait, si jamais tu veux vraiment voir tes luttes représentées de façon correcte, il faut les médiatiser toi-même, quoi. Donc ça a été notre idée aussi de dire, ce matin, fais pas le taf. À un moment, on avait regardé sur un laps de temps de quelques années, 7 millions d'euros. Donc une partie non négligeable du budget de Nice Matin vient de la métropole. Donc ça pose la question de l'indépendance de ce média par rapport à la métropole, donc d'Estrosi. Et donc cette dépendance n'existe pas. Donc à un moment, si tu veux voir tes luttes, notamment contre le monde proposé par Christian Estrosi, Eric Ciotti, etc., bien véhiculé, bien médiatisé, faut le faire toi-même. Et c'est notamment aussi de là dont on s'inscrit dans le monde des Gilets jaunes, quoi. Le mouvement des Gilets jaunes qui a beaucoup proposé d'automédiatisation avec beaucoup de personnes qui ont commencé à embarquer leurs caméras, à écrire leurs fanzines, leurs articles sur des blogs en ligne, etc. Enfin, donc nous, on s'inscrit totalement là-dedans sur le fait que c'est ce qu'on appelle le FLTP, qui vient du Do It Yourself, DIY. Mais nous, on a rebaptisé ça le FLTP pour que ce soit plus collectif, donc c'est le fais-le avec tes potes. Donc si quelque chose n'est pas là, si ton média n'est pas là, s'il n'y a pas de média pour te représenter, crée-le. Et fais-le avec tes potes, FLTP, pour faire en sorte que tes luttes, tes combats, tes initiatives citoyennes soient correctement représentées, quoi. Et en plus, c'est super agréable. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça. C'est une des plus belles aventures qu'on a eues avec les potes dans nos vies, c'est de se rencontrer, de faire ça. Et encore aujourd'hui, ça nous attire beaucoup de bonheur chaque mois, même malgré le fait que c'est du taf. Hein, mais c'est aussi une activité qui est très chouette à faire avec ses potes. Et je souhaite à tout à chacune de pouvoir se livrer à cette super activité qui consiste à faire un journal papier. Que ce soit une petite feuille de chou, un petit fanzine de lycée ou un truc publié dans tout le pays, dans tous les cas, c'est bien. Et c'est une façon de résister aussi.
Et puis qui sait, toutes ces petites initiatives, si petites soient-elles, peuvent un jour prendre une ampleur bien au-delà de l'aventure entre potes. Parce que, grande nouvelle, depuis le 8 janvier, Mouais est un média national que l'on peut trouver partout en France.
Comme on l'explique dans un communiqué qui est dans le Mouais apparaître en kiosque dans tout le pays, même dans les points relais de Bolloré. Je ne sais pas si on y restera longtemps, mais en tous les cas, on y sera quelques temps, à partir du 8 janvier. Et l'idée, c'était de... justement, pour revenir à Bolloré, il y a un contexte de fascisation ambiante de toute la presse, et nous, pour nous, c'était important, justement, en tant qu'anarchiste, en tant qu'activiste, en tant que propagandiste, en tant que journaliste, de mettre notre pierre à l'édifice et d'être diffusé le plus largement possible, quoi. Donc, c'est quand même assez ouf de dire qu'un journal anarchiste, là, va être diffusé dans tout le pays, dans tous les kiosques du pays. Et c'est une façon de résister, c'est une façon de véhiculer une pensée alternative au monde, à l'abject monde dominant. Donc pour nous, c'est une façon d'aller encore plus loin dans notre combat pour la presse libre et pour une information alternative et anticapitaliste, féministe, antiraciste, antifasciste. Mais oui, voilà, ça va être un super beau numéro avec un édito de Guillaume Meurice, avec une magnifique une, avec plein d'enquêtes internationales dans un dossier sur les peuples en lutte qui va en Ukraine, au Brésil, en Norvège. Et voilà, ça va être un très beau numéro et il faut absolument nous soutenir en kiosque parce que sinon cette aventure risque de tourner court, mais c'est important de soutenir la presse papier en kiosque. Et donc, pas seulement nous, mais aussi tous les autres médias qui sont en kiosque à l'échelle nationale, les médias indés. Parce que vraiment, on a face à un adversaire qui est beaucoup plus fort que nous. Parce que Bolloré, Sterrin, etc., ils mettent des millions dans la finance de médias de merde, genre Furia, Frontières, etc. Donc c'est important de contrebalancer ça en faisant passer du petit papier anarch qui gratouille là où il faut.
Et donc pour conclure, si vous cherchez un mode de lutte tout simple...
C'est une forme d'action extrêmement abordable, c'est d'aller le 8 janvier, aller dans un kiosque, acheter un mouet, le mettre dans ses toilettes, voilà, c'est...
Et continuer à l'acheter après.
Merci Marion pour ton reportage au cœur de l'actu à Nice, aux côtés de Mako Dragan et de son média, Mouais.
C'est la fin de ce cinquième épisode de Quatrième Murmure. Merci de nous avoir écoutés. On était en compagnie d'Emmanuelle Josse, rédactrice en chef, co-rédactrice en chef, pardon, de La Déferlante, et de la journaliste Rosaine Le Carboulec. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau de Quatrième Murmure. Merci aussi aux membres de l'équipe PA pour ta revue de presse, mais aussi pour la réalisation de l'émission. Cléo, Chiara et Ilona pour vos présences autour de la table. Et enfin, merci à Marion qui était à Nice ce mois-ci. Chers auditeurs, quant à nous, on se retrouve dans moins d'un mois, le 10 février précisément, pour un sixième épisode de Quatrième Murmure. Et d'ici là, restez à l'affût de la presse indépendante, soutenez-la, lisez-la, parlez-en autour de vous, répandez le murmure de la presse indépendante, car le quatrième pouvoir existe aussi grâce à vous.